Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Alors que l'Arménie est depuis plusieurs semaines au cœur d'une actualité douloureuse, et en lien avec ce 9 décembre, journée de prévention des génocides, je vous propose de réécouter aujourd'hui un reportage réalisé en décembre 2015 du génocide arménien à la Shoah. Mercredi 9 décembre 2015, dans la cour du conseil départemental de la Haute-Garonne, en lien avec la journée internationale de commémoration et de la dignité des victimes du crime de génocide et de la prévention de ce crime, journée nouvellement instituée par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies et à l'appel de l'Amicale des Arméniens de Toulouse et de Midi-Pyrénées, de nombreuses associations se retrouvent pour une veillée citoyenne et républicaine. Une veillée qui, pour Stéphane Kojayan, président de l'Amicale des Arméniens de Toulouse et instigateur et organisateur de cette manifestation, à valeur universelle.
Oui, tout à fait. Une dimension universelle et une dimension, j'allais dire, œcuménique entre différentes communautés qui ont subi le même sort, le génocide. Parce qu'en fait, cette année, l'ONU a décrété une nouvelle journée internationale qui est de commémoration et de la dignité des victimes du crime de génocide et de la prévention de ce crime. Donc du coup, on ne pouvait pas ne pas imaginer, en cette année de centenaire du génocide des Arméniens, d'organiser une telle veillée pour pouvoir se retrouver avec d'autres communautés comme la communauté juive, la communauté des Tutsis du Rwanda ou des Assyro-Chaldéens qui sont présents ce soir, pour se souvenir et honorer la mémoire des personnes donc, qui ont été massacrées à différentes époques de ce XXe siècle. Et en même temps, on a invité d'autres associations, d'autres communautés comme les chrétiens d'Orient, les Kurdes ou des Yézidis pour justement lutter contre ce qui se passe aujourd'hui et protester et tirer la sonnette d'alarme, parce qu'on se rend compte qu'un siècle après le génocide des Arméniens, l'histoire se continue et se perpétue et les mêmes images, les mêmes modes opératoires reviennent, et donc on les constate sur le terrain aujourd'hui sur nos téléphones portables de façon même banalisée, ce qui est vraiment très grave. Et donc c'est aussi, cette journée doit nous permettre de lutter contre ça et de pouvoir élever nos voix pour essayer de faire changer les choses.
Vous dites également que c'est peut-être une commémoration que vous pouvez mettre en écho aussi, rendre témoignage et rendre hommage à toutes les victimes des attentats toutes ces années 2015, mais sans confusion et sans amalgame.
Oui, en réalité, on ne peut pas ne pas faire le lien avec les attentats meurtriers, aussi bien de janvier que de novembre 2015, parce qu'en fait, c'est une terreur qui a aujourd'hui, qui a lieu au quotidien dans la région, donc à l'est de la Turquie, en Syrie, en Irak, et qui est exportée dans nos pays, dans nos villes. Et c'est contre ça aussi qu'on doit lutter, et surtout faire attention à ne pas tomber dans le piège de la stigmatisation chez nous de certaines communautés. Je pense aux musulmans, il ne faut justement pas faire l'amalgame, et de lutter tous ensemble pour qu'on puisse faire un travail de sensibilisation auprès de la communauté, auprès de nos concitoyens, mais aussi auprès de nos politiques, parce que les responsabilités sont à différents niveaux, et aussi sur le plan de la complaisance des hommes politiques et des États vis-à-vis de certains autres États ou groupuscules où on laisse faire des choses qui ne devraient pas avoir lieu, souvent pour des raisons économiques.
Donc c'est une journée de commémoration, une veillée qui a une valeur, c'est-à-dire que tous nous sommes responsables et tous nous avons apporté un témoignage collectif.
Nous devons apporter un témoignage collectif et on doit agir en tant que citoyen responsable et faire valoir nos voix. Et c'est d'autant plus d'actualité qu'on est entre les deux tours. Et aujourd'hui, ce soir, les hommes politiques ne pourront pas s'exprimer. Mais je pense que dimanche, il faut qu'il y ait pas 50% d'abstention, mais 0% d'abstention pour que chacun aille voter et du bon côté, pour qu'on puisse espérer à faire avancer les choses.
C'est un appel citoyen, vous avez lancé un appel citoyen, et en même temps, je veux dire que chaque communauté ici va être reconnue clairement avec son identité, culturelle, nationale et religieuse également.
Tout à fait, alors aujourd'hui c'est en même temps la journée de la laïcité, on a fêté les 110 ans de la séparation de l'Église et de l'État, mais laïcité ça ne veut pas dire... ignorance ou suppression de l'identité des uns et des autres. La laïcité, c'est aussi dans le respect de l'identité de chacun, des convictions, qu'elles soient religieuses ou pas, de chaque communauté, et pour déboucher à une meilleure connaissance, compréhension de l'autre, et améliorer le vivre ensemble en toute intelligence. Donc ce jour est aussi un jour pour parler de ces concepts-là et de pouvoir... être unis dans nos différences.
Sur les murs du conseil départemental, une exposition retrace l'histoire du génocide arménien. Et au sol, des photos forts reproduisent une date qui rappelle le calvaire de chacune ou presque des communautés présentes. Autant de petites lumières destinées à commémorer et à honorer toutes les victimes du crime de génocide, à sensibiliser également l'opinion. Paul Aswad, président de l'association des chrétiens du Levant.
C'est pour crier très fort ou très haut le fait qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et que ce soir, ce qui est beau pour moi, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui ont été des bourreaux, mais qui ont été aussi des victimes. Et chacun d'entre nous a été tantôt bourreau, tantôt victime. Et qu'on va se retrouver ensemble. Vous avez les Kurdes et les Arméniens. Vous avez les, entre parenthèses, les Israéliens et les Libanais. Des Palestiniens, vous avez même les Kurdes et les Chaldéens d'Irak qui sont là. On est tous ensemble réunis pour dire que ça suffit. Et que, comme je dis, rien, aucune cause, aucune terre, aucun bien ne vaut la goutte d'un seul innocent.
Voilà, je suis Chaldéen, Irakien, exilé, arraché, déraciné par les crocodiles et la peste noire qui a frappé Mossoul. Et merci à la France de nous avoir accueillis. Voilà, je vais dire un mot. Juste ajouter ma pierre à l'édifice dans cette occasion ultimement triste, mais hélas qui continue. Je vais l'expliquer. Voilà, depuis 1400 ans, nous vivons dans les mâchoires du crocodile.
Elric Fabre-Meynier n'appartient à aucune de ces communautés. Mais parce qu'il y a certainement une responsabilité collective à prévenir le génocide, il est venu pour dire son soutien, son amitié.
Eh bien, je trouve que dans la période troublée que nous vivons, où le repli sur soi-même et le rejet des autres communautés est peut-être à l'ordre du jour, malheureusement, de certains, eh bien, il est important de se retrouver les différentes communautés de la vie toulousaine, de la culture et des différentes activités, pour rappeler qu'il y a eu des génocides au XXe siècle, que ces génocides ont touché les Arméniens, mais aussi des Kurdes, mais aussi des gens de tous les pays, et que la seule réponse aux intégrismes quels qu'ils soient politiques, religieux, tout ça, eh bien, c'est le partage et la fraternité.
Je m'appelle Vahap Köse, on appelle en prononciation turque, mais en français on dit cause, donc Vahap Köse, je suis en France depuis, à Toulouse même, depuis 30 ans. Je suis né au Kurdistan, donc dans une ville du Kurdistan qui s'appelle Dersim. Notamment, on discutait avec Elric tout à l'heure, donc avec Dersim, il y a eu, en 1938, 43 000 morts.
Par l'armée turque.
Par l'armée turque, voilà, par l'armée turque. Parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître la République turque, parce qu'ils voulaient vivre leur coutume, parce qu'ils voulaient vivre leur religion, enfin leur croyance. Et là, ça ne plaisait pas à l'armée turque. Donc, 43 000 morts. Et toute la ville, enfin tous les habitants de cette ville ont été, comment on appelle ça, exilés.
Déplacés
par le gouvernement à l'époque. Donc, dans plusieurs pays, villes de Turquie, et en 1945, il y a eu donc, une amnistie presque tout le monde est retourné dans sa ville. Tout le monde, personne n'est resté. Pourtant, le gouvernement turc leur a donné des terres, des villas, des appartements, mais personne n'est resté. Donc, là, donc, c'est vrai que 43 000 morts, plus les exils et les filles perdues, on ne sait pas qui c'est qu'ils appelaient, Marie de Force, ça on n'en parle plus.
Justement, tout ce qui se passe en ce moment, ça fait terriblement écho, comme voilà. Si l'histoire ne retenait rien.
Tout à fait, mais tout à fait. Mais aujourd'hui, tout à l'heure je disais les filles qui ont été vendues, Marie de Force vendues, mais aujourd'hui, c'est l'actualité aujourd'hui. Dans une ville en Turquie, aujourd'hui, qui s'appelle une très grande ville dans l'est de la Turquie, Gaziantep, j'apprends qu'il y a des filles ou des femmes qui sont vendues. Et c'est des filles et femmes qui sont sauvées de Syrie, d'Irak, qui sont arrivées à trouver soi-disant la paix et
en tant que
réfugiés. Et là, ces filles-là sont vendues. Elles sont vendues par qui ? On ne connaît pas Daesh en Turquie, c'est ça. Il peut parler Erdogan, il ne connaît pas Daesh. D'ailleurs, lui, c'est un grand financier de Daesh. Donc ça, tout le monde le sait. Mais par contre, lui, il ne le sait pas. C'est vrai, quand on apprend que dans cette ville, il y a des filles et femmes qui sont vendues.
D'où l'importance d'être là, de témoigner.
De l'amitié entre les différentes origines, de la fraternité, et qu'il n'y a que comme ça, par la fraternité, le partage, que ce monde avancera. Comme nous disons dans le récital que nous faisons sur Nazım Hikmet, avec Vahap qui joue du saz et moi qui suis récitant, Nazım rêvait, il avait l'espoir à pleurer de rage d'un monde meilleur pour tous. Et cet espoir, il faut le conserver envers et contre tout.
Dans l'esprit, cette veillée du 9 décembre répondait à celle qui, quelques jours plus tôt, le lundi 7 décembre, se déroulait à l'espace du judaïsme à Toulouse toujours. Ce soir-là, l'Amicale des Arméniens et l'antenne du Mémorial de la Shoah présentaient une exposition visible à l'espace du judaïsme jusqu'au 31 décembre. Le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, stigmatiser, détruire, exclure. Les deux structures accueillaient également ce soir-là pour leur ouvrage « Du génocide des Arméniens à la Shoah, typologie des massacres du XXe siècle » les professeurs Gérard Dédéillon et Carole Yoncou, professeurs émérites de l'Université Paul-Valéry de Montpellier.
Monsieur Dédéillon, le génocide arménien dans l'opinion publique est resté alors très longtemps à l'ombre, si je peux m'exprimer ainsi, de la Shoah. Cette exposition, c'est une façon de réparer ce manque auprès du grand public.
Je pense que la Fondation pour la mémoire de la Shoah a largement embrassé l'ensemble des génocides, génocide des Arméniens, génocide des Rwandais, etc., malheureusement, et que le titre Fondation pour la mémoire de la Shoah, bien entendu, est très légitimement demeure, mais que c'est en fait tous les génocides dont elle essaye de faire connaître la réalité, les réparations ou les aspects négationnistes. Si je puis utiliser ce terme, il y a une attitude très œcuménique.
Aspect négationniste, justement, la négation de la Shoah et du génocide arménien est peut-être pas tout à fait du même ordre.
Non, c'est pas du même ordre parce que pour ce qui concerne la négation de la Shoah, je pense qu'elle est limitée à quelques intellectuels totalement égarés ou parfois plus ou moins vendus. Et parfois à quelques pays du Proche-Orient. Mais pour le génocide des Arméniens, il est nié par l'État turc. Je ne dis pas par la population turque en général, mais il est nié par l'État turc. Et il y a des historiens qui sont stipendiés de l'État turc et qui suivent cette attitude négationniste. Alors, il y en a eu aux États-Unis, par exemple.
Qu'est-ce que vous voulez dire à ce public toulousain qui va venir voir ici cette exposition ?
Cette exposition veut rappeler visuellement la réalité du génocide. Il y a des images qui sont épouvantables et on ne réalise ce qu'a été ce génocide qu'en voyant, qu'en supportant ces images. Quand vous voyez des enfants ou des femmes complètement décharnées sur les bords des routes, sur des tas de cailloux, cherchant à trouver un petit peu d'eau, ben vous comprenez ce qu'est un génocide. Quand vous voyez des cadavres amoncelés, vous comprenez ce que c'est qu'un génocide. Et même si ce génocide génocide a eu lieu en 1915, c'est-à-dire il y a 100 ans. Les images nous rappellent sa réalité et malheureusement ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, comme le pape François l'a rappelé d'ailleurs lors de la messe anniversaire du génocide qu'il a célébré avec le patriarche arménien catholique à Rome le 12 avril de cette année, ce qui se passe actuellement au Proche-Orient fait écho tragiquement à ce qui s'est passé en 1915, parce que souvent ce sont les mêmes populations. Même pour les Arméniens, il y a des Arméniens de Syrie qui sont visés par Daesh. Et il y avait eu en 1915 des populations syriaques, c'est-à-dire des chrétiens de tradition araméenne, pas arménienne, araméenne, qui ont été massacrés. Ça peut être considéré, je pense, comme un génocide. Et ils sont de nouveau menacés par tout ce qui se passe actuellement au Proche-Orient et par l'État islamique, entre autres.
Et oui. Mon prénom arménien, c'est Archalouis.
Donc vous êtes ici avec une amie.
Oui.
Ici en France, alors bon, depuis le début de l'année, il y a le centenaire du génocide, donc on en parle quand même pas mal. Il y a eu beaucoup de manifestations. Mais est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez pris, dont vous connaissiez l'ampleur et que vous connaissiez tout simplement?
Mais en fait, j'ai commencé à peut-être connaître un peu plus depuis que je connais Nicole. Donc ça fait un an et demi. Et donc je m'intéresse de plus en plus, mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas en fait, que je n'étais pas au courant de l'ampleur de la chose.
C'est souvent par la petite histoire de nos amis, de nos relations, en fait, qu'on entend parler de la grande histoire, quoi. Il faut que ça nous interpelle de façon plus subjective, peut-être.
La mémoire vous a été transmise, la mémoire de ce qui s'est passé, la mémoire de la culture vous a été transmise par vos parents, vos grands-parents?
Mes grands-parents, surtout, mais surtout aussi avec les non-dits, en fait. Avec une transmission que je dirais qu'on ne voit pas, en fait. En fait, c'est comme un héritage, malgré nous, voilà.
Et c'est vous qui êtes allé chercher, vous avez...
Alors en fait, sur notre génération à nous, c'est un petit peu compliqué parce que les grands-parents en ont parlé un tout petit peu. Mais après, bon, vu qu'ils sont décédés, vu qu'ils sont morts, en fait, la transmission par les parents, par cette autre génération, en fait, elle n'est pas aussi faite. Elle est trop douloureuse pour être faite. Donc c'est exactement ce que voulaient les Turcs. C'est qu'en fait, il y a une espèce de... Comment dire ? De mal, oui. Qui est fait sur 3-4 générations. Mmh. Voilà. Une espèce de gangrène. Voilà. Mais après, je pense que c'est comme un héritage. Voilà. Malgré nous.
Et cet héritage, qu'est-ce que vous voulez en faire, vous? Enfin,
notre génération.
Voilà.
Après, c'est sur la génération, par exemple, de nos enfants aussi, où les questions sont posées aux grands-parents, où les choses sont apaisées, où les choses vont être dites, voilà, et ressenties, et d'une manière différente, parce qu'on est quand même sur des générations où il n'y a plus ce problème de frontières, il n'y a plus ce problème de, comment dire, de colère, voilà.
Mais votre arménité, on peut parler d'arménité,
oui.
C'est quelque chose que vous tenez à garder, à conserver et à transmettre?
Oui, puis de toute façon, j'ai pas le choix, même si je voulais pas, c'est malgré moi. Moi je veux, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est la part inconsciente, quoi, qu'on nous a transmise, et je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un héritage, voilà. Alors, il y a toutes les choses qu'on a envie de faire, toutes les choses, voilà, pour sublimer, pour, voilà, pour transmettre, tenir au courant nos amis, en parler, faire que ça soit reconnu, ce génocide, voilà, pour qu'on n'en parle plus, qu'on passe à autre chose aussi.
Je suis Édouard d'Ivry, père dominicain, et délégué de l'évêque pour les relations avec le judaïsme. Je connais bien Carole Yankou, puisque j'ai été délégué à Montpellier, où j'ai beaucoup fréquenté les amitiés judéo-chrétiennes dont il était le président. Voilà.
Et ici donc ce soir, cette exposition du génocide arménien à la Shoah, je ne sais pas, moi je me disais que c'était peut-être rendre une justice à l'histoire, puisque le génocide arménien est peut-être de très longtemps resté à l'ombre, si je peux m'exprimer ainsi, de la Shoah.
Alors bien sûr, au niveau historique c'est clair. Au niveau personnel, moi, il se trouve que je suis dans une famille où j'avais un oncle juif, une tante arménienne, donc j'ai connu une synergie très forte sur ces événements et redoutables et en même temps cruciales pour l'histoire de l'humanité. Et une lumière donc a toujours veillé dans ma conscience sur à la fois la Shoah et le génocide arménien, et drames affreux qui montrent bien que il faut sans cesse rester des veilleurs dans une humanité qui a toujours tendance à dégringoler. Nous sommes, si vous voulez, comme des gens qui serions dans une coque fêlée. Il faudrait toujours écoper. Et génération après génération, il faut écoper, sinon le bateau s'écroule et on tombe dans un infra-éthique qui s'écroule à partir du moment où Dieu et sa loi ne sont pas au centre. Voilà.
Et d'ailleurs, ces manifestations du centenaire du génocide qui oui. sont déroulées en cette année 2015 ont eu un écho effroyable et terrible.
Oui, oui.
Qu'elles se soient déroulées en cette année 2015 et faire oui. écho à tous les fracas du monde.
Tous les fracas du monde. Et c'est vrai que la France est particulièrement tributaire cette année 2015 de violence. Et donc, cela ressuscite en quelque sorte une conscience, je pense. Il faut toujours essayer dans les événements mauvais de tirer la bonne part, et si ça ressuscite des consciences de veilleurs, des consciences d'hommes introduits à la volonté de lutter contre le mal et ses perversions, eh bien, souhaitons à chacun, eh bien, de ceux qui auront visité cette exposition, ce souci de transmettre, de combler le vide historique, combler le vide des manuels d'histoire, des manques dans les universités, des incapacités à transmettre. Ça, c'est très grave, je trouve, par rapport à la société qui se dégrade. Il est temps qu'il y ait un sursaut, un réveil, et que ces grands veilleurs arméniens et juifs se tendent la main. C'est une très, très belle image de l'humanité de demain.
Dans la cour de l'hôtel du département, la veillée s'achève. L'heure est grave et solennelle.
Gérard Follus, président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et dont je suis également le vice-président national.
Vous avez dit tout à l'heure que cette veillée, que cette journée, c'était un acte de résistance.
Un acte de résistance parce que des défis nous sont lancés, c'est ce que j'ai rappelé. Le défi de la barbarie de l'État islamiste. La montée de l'extrême droite dans notre pays et d'ailleurs un peu partout en Europe. Et je pense que les hommes vont être confrontés, c'est peut-être un petit peu pessimiste ce que je me permets de dire, mais je le pense, c'est une forme d'expérience, de sagesse que m'a inculqué mon père. Mon père était résistant et mon père, après la guerre, avait été nommé par le général de Gaulle commissaire à la République pour juger les criminels de guerre nazis. Et mon père s'est montré très humain, mais il m'a toujours appris qu'il fallait avoir cette force en soi de vivre libre et de combattre toutes les formes de fascisme, d'intolérance Et actuellement, l'intolérance, elle règne un petit peu en maître dans ce monde. C'est pour ça que j'ai employé le mot résistance. Et résistance, dans mon esprit, veut dire des hommes et des femmes venus d'horizons différents, capables de se réunir et capables, avec le mot auquel je tiens beaucoup, le mot amitié, le mot loyauté, être capable de défendre des valeurs profondes que nous avons et qui sont pour demain le message que nous devrons donner à nos enfants. Voilà pourquoi j'ai repris ce mot de résistance. Il est très important à mes yeux dans le contexte actuel où nous nous trouvons.
Sans faire d'amalgame ni de confusion de genre, mais en insistant sur la notion du vivre ensemble, sur l'importance du respect de nos valeurs démocratiques et de nos principes de laïcité, dans le respect des identités de chacun, nous dit Stéphane Cojaillon, les Arméniens de Toulouse et d'ailleurs, en commémorant le centenaire de leur génocide, n'ont eu de cesse tout au long de cette année de dénoncer la barbarie humaine et d'envisager la possibilité d'un monde plus pacifique, empreint d'humanisme et de fraternité.